Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 46, selon la traduction de la Colombe. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec des sévères recommandations. Et il lui dit : « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier ouvertement et hautement la nouvelle, à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Éternel, merci pour ta parole. Celle-ci nous rejoint maintenant, là où nous sommes, là où nous en sommes. Et de cela, nous te rendons grâce. Amen. À la fin du psautier français, vous allez trouver une série de chorales luthériens. Et je vous invite à prendre le numéro 33 qui s'intitule « Dieu des louanges soit béni ». Et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever.
Dieu des louanges soit béni, Dieu Prenez place.
Prions ensemble. Ta parole nous rejoint exactement là où nous sommes, avec nos interrogations, avec nos angoisses, avec tout ce qui nous enferme d'une façon ou d'une autre. Mais merci pour ta parole qui nous porte quand nous nous découvrons démunis, qui nous accompagne quand nous nous sentons seuls, qui nous console quand nous sommes dans le chagrin, qui nous relève quand nous sommes tombés à terre. Donne ton souffle, ici et maintenant, à celles et ceux qui parlent, comme à celles et ceux qui écoutent, et que ta parole trace son chemin en chacun et chacune de nous. Amen. Amis, frères et sœurs, c'est un récit proprement renversant que nous venons d'entendre et qui est proposé à notre méditation ce dimanche. Et c'est de contagion dont il est question dans notre texte de ce matin. Et pour bien le comprendre, surtout pour exprimer le sentiment de malaise qui s'en dégage, il faut juste se rappeler ce que veulent dire les mots « purs » et « impurs » dans le contexte de Jésus. Dans le Premier Testament, au livre du Lévitique, entre les chapitres 11 et 15, ces chapitres sont consacrés aux usages fixés par le Code de pureté concernant les maladies contagieuses et aussi tout ce qui a un rapport avec le sang. Et une personne atteinte d'une maladie contagieuse est déclarée impure. Son impureté est non seulement une réalité médicale, mais aussi et surtout une réalité sociale et religieuse. La personne est coupée dans sa relation avec les autres membres de sa famille. Elle est exclue de la vie sociale et de la pratique religieuse. Cette personne est mise en quarantaine jusqu'à sa guérison, si toutefois elle guérit. Et toute personne qui touche un lépreux, par exemple, devient impure et doit se mettre à l'écart à son tour. C'est pourquoi les personnes lépreuses en particulier avaient le devoir de prévenir de leur maladie afin de ne mettre personne en danger d'exclusion. Et si la personne constate qu'une amélioration, voire une guérison, il y a alors un rituel avec divers sacrifices pour signifier la fin de l'impureté. Le prêtre sacrificateur constate que les signes de l'impureté ont disparu et ratifie rituellement la réintégration de la personne dans la communauté sociale et religieuse. Ce n'est donc pas seulement une guérison au sens médical du terme, mais une réhabilitation de la personne qui retrouve ainsi toutes ses prérogatives du membre du peuple. Alors en sachant cela, on voit maintenant combien ce récit que nous venons d'entendre est placé sous le signe d'un certain malaise. Un lépreux s'approche de Jésus sans prendre de précautions. Il transgresse le code de pureté alors en vigueur à cette époque. Il se met à genoux, selon certaines traductions, devant Jésus et l'implore. Et nous pouvons remarquer comment il formule sa demande à Jésus. Il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Non seulement le lépreux transgresse la loi en ne maintenant pas la distance physique requise entre Jésus et lui, et dans ce cas, il fait courir à Jésus le risque de devenir impur à son tour, et en plus, il lui propose, il lui donne une sorte de choix. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux. » Et il lui confère ainsi une toute-puissance qui rappelle une parole de la tentation de Jésus au désert, lorsque le tentateur lui avait dit « Si tu veux, tu peux transformer ces pierres en pain, puisque tu as faim. » Dilemme. Si Jésus accède à sa demande, alors Jésus, en le touchant, deviendra impur par choix et non pas par accident. C'est un renversement de situation propre à l'évangile dans laquelle l'impur devient pur et le pur devient impur. Tout de suite, le texte nous dit que Jésus fut pris de pitié avec ce mot si particulier en grec, qui n'est employé d'ailleurs que dans le grec biblique pour désigner combien Jésus est saisi aux tripes, aux entrailles. Et Jésus réagit avec sa chair parce que avec ce qu'il y a de plus intime humainement, puisque ce mot en grec désigne aussi la matrice, l'utérus de la femme. Il s'agit des entrailles ou du cœur, et par extension de la tendresse et de la compassion. Mais ce n'est pas une compassion de pacotille ou de bonne conscience, parce qu'on se souvient que déjà, en hébreu, les entrailles, le cœur, ce sont non seulement la source des sentiments, mais aussi le siège de la volonté et de la décision. C'est aussi l'endroit de la miséricorde de Dieu, le lieu de sa tendresse que nous appelons aussi le sein maternel. La miséricorde de Dieu, c'est son amour sans restriction, père et mère à la fois. Alors finalement, tout irait à peu près bien dans ce texte s'il n'y avait pas encore une incertitude qui plane. En effet, le texte a posé et continue de poser un problème aux exégètes de notre temps. Il a été trouvé plusieurs manuscrits de ce récit et dans quelques-uns d'entre eux, ce n'est pas la compassion de Jésus qui est mise en avant, mais au contraire sa colère. Et cela change tout. Si l'on lit « Jésus fut rempli de colère envers lui et il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur ». Et c'est aussi la même chose pour le verset 43. Le verbe employé est traduit gentiment par « Jésus lui fit de sévères recommandations » alors que le verbe utilisé signifie l'irritation, la violence d'une émotion négative. Alors dans ce cas, on est face à une attitude de Jésus qui surprend et qui dérange. Et si on imagine que Jésus a guéri en étant en colère et non pas dans un élan de compassion généreuse envers son prochain, on s'éloigne tout de même d'une certaine conformité que l'on se fait du Christ. On voudrait tellement un Jésus tout lisse, tout beau, sans aspérité négative, alors qu'il nous faut sûrement faire avec une réalité beaucoup plus proche de l'humanité de Jésus. Avec, pourquoi pas, ces zones d'ombre. Nous savons bien pourtant que Jésus n'est pas forcément quelqu'un de commode. Sa colère existe. Reste à savoir contre qui, contre quoi. Est-ce que cette colère est justifiée? Reste à savoir aussi comment nous voulons la justifier. Rappelons-nous au passage que la colère est une des caractéristiques du Dieu du Premier Testament et ce n'est pas ce qui nous enchante le plus. Alors Jésus, ici en colère, selon certains manuscrits, accepte tout de même la demande du malade. On peut même imaginer qu'il guérit le lépreux à contre-cœur, ne serait-ce que parce qu'à son tour, Jésus sera contaminé et deviendra impur ensuite. Et c'est bien là le paradoxe de notre texte. Et Jésus guérissant quelqu'un, j'allais dire, en renaclant ou en râlant, hein, c'est pas très glamour, c'est pas très satisfaisant. Alors peut-être que la colère de Jésus n'est-elle pas dirigée contre la personne, mais plutôt contre la maladie. Ou peut-être pire, contre le rituel de la loi de Moïse, incontournable selon le Lévitique, qui a fait de cette personne, en fait, un sous-homme, qui n'a même pas le droit d'aller au temple pour prier. Alors dans ce cas, la colère de Jésus peut mieux se comprendre. Comme une indignation contre la dureté de la loi et la guérison qu'il opère permet vraiment à cet homme non seulement d'être guéri, mais d'être réintégré dans la société et dans la vie religieuse. Ce faisant, Jésus lève une autre malédiction, celle que la maladie était une punition de Dieu en conséquence d'un péché. Et en le guérissant, Jésus lève une sorte de punition en agissant en quelque sorte, à la place de Dieu lui-même. On retrouvera exactement cette problématique juste au chapitre suivant, en Marc chapitre 2, avec la guérison de l'homme paralysé, où Jésus lui dira « Tes péchés sont pardonnés !» Et en même temps, « Lève-toi, prends ton lit et marche !» Jésus a-t-il le droit de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. La question est ouverte et ce n'est qu'un début. La dernière contradiction du texte réside dans les paroles mêmes de Jésus au lépreux guéri. Ne parle de cela à personne. Dans l'évangile de Marc, c'est une constante. Ne rien dire, ne pas témoigner, ne pas transmettre, ne pas parler. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Et ce secret sera maintenu jusqu'à la croix. C'est à la croix que sera dévoilée la mission de Jésus comme Christ, comme Messie. Et pour l'heure, Jésus ne veut pas qu'on se méprenne sur lui. Il n'est pas seulement un guérisseur, voire un exorciste. Il n'est pas là pour faire de la publicité pour un produit, une manière miracle de vivre. Il est là pour changer les mentalités et aussi changer le rapport de l'homme à Dieu. Et cela ne peut pas se réduire à une guérison, fût-elle miraculeuse. Va te montrer au prêtre pour faire attester ta guérison. Offre le sacrifice prescrit par la loi de Moïse comme preuve de ta guérison. C'est à ce prix que l'homme guéri sera réintégré dans la société, dans la vie religieuse. Mais Jésus ne veut pas qu'il se dérobe à la procédure de la loi sacerdotale décrite dans les chapitres du Lévitique. C'est la loi qui aidera l'homme à se réintégrer. Il n'y a pas lieu de s'y opposer, bien au contraire. Mais en même temps, l'homme sera obligé de dire d'où provient cette guérison et Jésus devra assumer deux choses. D'avoir guéri un lépreux, c'est le début des signes des temps messianiques, mais aussi d'avoir touché un lépreux et ainsi d'être obligé de vivre à l'écart comme un lépreux puisqu'il a lui-même transgressé le code de pureté. Alors la fin du récit est intéressante puisqu'on apprend que le lépreux guéri ne tient pas sa langue. Mais qui pourrait le faire à sa place? On peut le comprendre. Et on apprend que Jésus ne peut plus se montrer dans une ville et qu'il reste en dehors dans les endroits isolés. La situation est vraiment renversée. L'homme guéri devient celui qui proclame la bonne nouvelle, et c'est le terme employé dans le texte grec. Il fait beaucoup mieux qu'une simple indiscrétion ou qu'un simple bavardage. On pourrait dire qu'il devient en quelque sorte prédicateur de cette bonne nouvelle. On devrait pouvoir se réjouir, mes amis, parce que finalement, c'est ce qui compte, quand même que la parole soit annoncée ou proclamée. Et pourtant, même si je n'ai pas choisi cette traduction tout à l'heure, le verbe employé pour prononcer cette parole, eh bien, se traduit, c'est le terme diaphémizo qui veut dire divulguer. Et c'est ça qui crée un malaise. Parce que ce terme est peu utilisé dans le Nouveau Testament. Et s'il est utilisé, c'est de manière ambiguë. Une fois, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, deux aveugles divulguent ce que Jésus avait fait malgré l'interdiction de ce dernier. Et un peu plus tard, à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est la fausse nouvelle divulguée parmi les Juifs au sujet de l'enlèvement du corps de Jésus par ses disciples. Alors, qu'est-ce que ce lépreux divulgue ? Parce que le lépreux fait tout de même exactement l'opposé de ce que Jésus lui a demandé. Jésus a exaucé le lépreux en le purifiant. En revanche, le lépreux n'a pas pris en compte la volonté de Jésus. Il ne va pas se montrer au prêtre et il divulgue le secret messianique. Peut-être sous la forme d'une toute puissance divine émanant de Jésus. En fait, dans ce texte, les deux hommes sont en décalage. Alors Jésus, le guérisseur, est obligé de se tenir à l'écart dans des endroits isolés. Il ne peut plus aller vers les autres, annoncer la parole, enseigner ses contemporains, mais ce sont les autres qui viennent à lui. Mais que cherchent-ils, ceux qui viennent à lui ? Le désert dans lequel Jésus aime se retirer pour retrouver sa proximité avec Dieu devient un lieu de rassemblement où chacun ayant un désir, comme celui du lépreux, vient rencontrer une toute puissance susceptible de satisfaire tous les besoins. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. C'est le début du ministère de Jésus. Il ne veut pas que l'annonce de la parole soit confondue ou remplacée par les signes opérés, par les guérisons produites. Et moi, c'est en ce sens-là que la colère de Jésus m'intéresse. Alors bien sûr, c'est important que le lépreux soit guéri et que toutes les guérisons dont il est question dans les évangiles, elles sont toutes importantes, mais qu'en est-il pour celles et ceux qui n'auront pas été guéris, quelle qu'en soit la raison ? Est-ce qu'ils seraient privés de l'annonce de l'Évangile ? Un lépreux non guéri peut et même est appelé à se sentir purifié à l'intérieur de lui par la parole qui sauve. J'ai posé la question hier aux détenus de la prison, puisque nous avons réfléchi sur ce texte. Je leur ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi Jésus est-il venu ? Et tous en cœur m'ont répondu, pour nous sauver. Alors je vous traduis, pour nous sauver. Certes, mais de quoi ? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Nous avons besoin d'être sauvés de toutes les idées fausses et verrouillées que nous pouvons nous faire sur Dieu. Car que veut dire être sauvé, sinon être en Dieu ? Ainsi que Paul le dira dans, comme une intuition, j'allais dire divine, pourquoi pas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, pas même la mort. Alors bien sûr, aujourd'hui, la colère de Jésus m'intéresse parce qu'elle est humaine. Son indignation aussi m'intéresse parce qu'elle m'interpelle. Mais j'espère pas que moi, hein. Pas moi seulement. Sa colère, son indignation, mais aussi sa compassion sont là pour nous interpeller dans nos engagements, en nous rappelant que, même si à notre époque actuelle, il existe toujours le principe de précaution lorsqu'il y a un risque de contamination bactérienne qui préconise encore de mettre des personnes en quarantaine, nous sommes invités à ne pas considérer ces personnes comme des parias ou des sous-hommes, mais à les assurer de notre prière, de notre amour fraternel, de notre compassion et aussi de notre lutte solidaire, de notre engagement à notre niveau pour faire reculer la ou les maladies. Mais posons-nous aussi la question par rapport à nous-mêmes, en prenant conscience plus largement de nos comportements envers les autres, indépendamment des maladies. De quelle lèpre intérieure avons-nous besoin d'être guéris pour devenir les témoins que le Dieu de Jésus-Christ attend ? Sommes-nous seulement conscients que nous sommes porteurs d'une autre contagion positive ? Une confiance contagieuse et guérisseuse. En fait, l'Évangile nous invite tout le temps à regarder notre vie quotidienne sous un nouveau jour. Et chacun de nos gestes ordinaires n'est méprisable. Et chaque geste ordinaire peut devenir un signe de la présence de Dieu. C'est, me semble-t-il, extrêmement libérateur pour devenir enfin qui nous sommes. Mes amis, mes frères et sœurs, dans une semaine va commencer le temps de la Passion qui va nous conduire jusqu'à Pâques. C'est un temps pour préparer notre personne tout entière à cet événement fondateur de la foi chrétienne, bouleversant pour notre vie personnelle et renouvelant notre témoignage. La guérison que Jésus opère n'a rien de magique. Elle ouvre toute notre personne à une transformation en profondeur pour tenter de répondre à cette question. Quel est le Dieu que Jésus incarne ? En Jésus, en cet homme, Dieu compose avec l'humanité et agit à travers elle. Comment Dieu nous sauve-t-il ? Non pas en nous projetant dans une vie sans fin, mais en redonnant sans cesse à cette vie-ci, celle que nous vivons ici et maintenant, un souffle d'éternité, celui par lequel nous découvrons que nous sommes capables de merveilles. Alors, il y a quelques années, Raphaël Picon posait cette question. Peut-on encore croire en un Dieu créateur et en un Dieu sauveur ? Et il répondait de cette manière, « Oui, assurément. » Et voilà ses définitions. Le Dieu créateur est le Dieu qui éternellement redonne du goût à la vie et rend le monde plus lumineux. Dieu est ce poète du monde qui sans relâche lutte pour rendre nos existences intense et créatrice. Le Dieu sauveur est le Dieu qui éternellement nous inclut en lui et se laisse transformer par nous. Notre participation à Dieu, voilà notre véritable salut. Car être sauvé, c'est être en Dieu, savoir que pour lui, nous comptons et nous existons. Et Jésus ne nous invite pas à croire que Dieu existe, mais à croire que pour Dieu, nous existons. Amen.